Soigné. Toute cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Catherine Millet. Ce soir, l'intimité au-delà du secret.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Nous sommes chez vous, à Paris, en plein centre de Paris, dans une maison qui donne sur une cour, qui elle-même donne sur une autre cour. Et la cour sur laquelle vous donnez est un jardin, enfin une sorte de serre, et si bien qu'on a l'impression d'être très, très loin de là où on est, en vérité. Vous êtes l'auteur, Catherine Millet, d'un livre qui s'appelle « La vie sexuelle de Catherine M. » qui vous a fait connaître du grand public en 2001 et qui est un livre absolument stupéfiant et dont le pouvoir de stupéfaction ne s'est pas émoussé depuis sa parution, ce qui est très rare. Ce livre était le point de départ de votre carrière littéraire, si on peut dire, puisque vous avez écrit plusieurs livres depuis. Mais vous n'êtes pas que écrivain, vous êtes aussi, et c'est très important, et vous l'avez été bien avant, vous êtes une figure du monde de l'art en France, vous êtes spécialiste d'art contemporain, vous êtes essayiste, critique, et vous avez aussi été parmi les fondateurs du magazine Art Press que vous dirigez. Voilà. Autant dans votre métier de critique que dans votre travail d'écrivain, vous avez une langue très belle et une manière très à vous de soulever des problème, ou de poser des questions plutôt, que personne ne pose ou que personne ne se pose. Voilà, et bien c'est donc de ça que vous allez nous parler pendant toute cette semaine.
D'accord.
Je propose que ce soir, vous nous parliez, si vous êtes d'accord, de cette question de l'intime et du secret qui est vraiment au cœur de toute votre œuvre littéraire. Il me semble qu'une partie très importante de votre travail repose sur le fait de poser des questions, de tenter toujours de voir derrière les apparences. C'est ce que vous appelez dans un beau texte qui a été publié dans Le Monde, « Dégager le mur du réel de l'enduit qu'il recouvre ». Est-ce que c'est une chose qui vous importe ?
Oui, c'est sans doute le défi que j'essaye de relever à chaque fois. Qu'est-ce qui, sur la réalité des êtres et du monde, est encore resté caché et qui serait à découvrir, en fait. Moi, je dis toujours que, bien que mon écriture soit pas très avant-gardiste, je suis restée quand même une avant-gardiste. Je le suis en tant que critique d'art. Mes intérêts m'ont portée vers les avant-gardes, les expériences formelles, qui sont toujours portées par cette idée d'aller plus loin. On ne sait pas vers quoi, d'ailleurs. Ça a été souvent remis en cause au cours des dernières décennies. Mais enfin, qu'il y a une sorte de course en avant, comme ça, des avant-gardes. Et moi, je pense que dans mon travail d'écriture, je suis un peu comme ça, dans cette course en avant, ou en tout cas dans toujours le plus profond, voilà, plus exactement, toujours le plus profond. C'est ça qui m'intéresse depuis longtemps, parce que je vous écoutais me poser la question et je me disais, mais finalement, puisque vous avez prononcé le mot secret, apparemment je suis quelqu'un qui n'a pas de secret. Souvent on me dit, mais alors quoi, vous racontez tout? Bon, alors bien sûr que non, mais j'ai été une petite fille très secrète. Pourquoi ? Parce que, comme je le raconte peut-être un peu, ou je le laisse entendre dans le livre sur l'enfance, je me sentais décalée par rapport au reste de ma famille. Donc, comme tous les enfants qui se sentent un petit peu à part au sein d'une famille, ils se replient sur eux-mêmes et ils ont leurs propres secrets. Ils bâtissent leur monde à eux, et ce monde dans lequel ils se sentent bien, ils n'osent pas l'ouvrir aux autres, parce que les autres viendraient y importer tout ce qui gêne cet enfant par ailleurs. Et vivant dans ce monde secret, je pense que j'étais obsédée déjà à l'époque, j'ai des souvenirs assez précis comme ça, par l'idée qu'un jour il faudra néanmoins que je le révèle, ce monde secret, vous voyez. Et ça touchait à des choses banales de l'enfance, hein. Il n'y avait pas encore forcément des choses sexuelles à cette époque-là, mais par exemple, je me souviens de la souffrance. J'ai été très très tôt une petite migraineuse, et je souffrais terriblement de ça, déjà enfant. Et dans l'enfermement de la souffrance, je me disais, il faudra qu'un jour je raconte cette souffrance. Voilà, cette souffrance qui me restait secrète, personnelle, dont je m'ouvrais pas forcément d'ailleurs facilement à ma famille, parce que je sais pas, j'étais comme ça un peu volontariste, je montrais pas forcément très très facilement les choses, et notamment la douleur. Et donc voilà, j'ai ce souvenir là de ce rapport là au secret, c'est-à-dire d'avoir des secrets, si on peut dire, ou des choses enfouies en soi, difficile à exprimer. Et déjà, là, je pense l'idée que voilà, il faut le rendre public, ça, parce qu'il faut que, je sais pas, j'essaye de retrouver mes raisonnements d'enfant. Il faut que les gens qui souffrent de la même chose ou il faut le faire savoir, quoi. Ça existe. Voilà. Je sais pas. Il y avait peut-être pas de raisonnement au-delà. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a tellement plus aujourd'hui. Mais voilà, je crois que je porte ça en moi. Et en fait, l'autre chose qui me vient en tête, c'est que j'ai fait ce livre, en effet, sur ma vie sexuelle. Bien sûr, le projet, c'était de raconter les expériences sexuelles d'une femme, ce qui n'avait pas encore été fait, je crois, d'une manière aussi ouverte. Bon, j'ai publié ce livre. En fait, ce livre avait déjà une histoire dans ma vie. Il était intervenu, je m'étais mise au travail à un moment donné. Et devant le succès immédiat du livre, je me suis dit tout de suite, il faut que je fasse un deuxième livre. Ce deuxième livre, c'est « Jours de souffrance ». Pour raconter justement ce que, d'une certaine façon, ce premier livre, La vie sexuelle de Catherine M, recouvrait comme douleur qui avait précédé son écriture. Et dans mon idée, d'ailleurs, c'était cette chose recouverte et donc cachée par cette joyeuse vie sexuelle de Catherine M, c'était quelque chose de douloureux, c'était même quelque chose par certains aspects qui était honteux, en fait.
Oui, vous parlez de la jalousie.
Oui,
là, je le
oui,
précise.
C'était pour parler de la jalousie et des choses pas très glorieuses que la jalousie vous pousse à faire.
Dans ce livre que vous évoquiez, qui est un livre absolument extraordinaire, Une enfance de rêve, dans lequel vous évoquez votre enfance et votre adolescence, vous ne racontez pas seulement vos secrets, vous racontez les secrets qui se cachent derrière l'image d'une famille banale, telle qu'on peut l'avoir sur une photo, et,
oui,
qui sont,
sûr, oui.
Et qui sont des secrets extrêmement douloureux.
Oui, alors c'était pas des secrets, et d'ailleurs je pense que ça c'est important de le souligner, c'est que ça ne pouvait être des secrets que pour des témoins assez à l'écart, assez lointains, parce qu'en fait, et ça c'est une chose dont je leur sais gré à mes parents, c'est qu'ils cachaient pas grand-chose. Alors, bon, j'ai grandi dans une famille, la cellule familiale y a été composée de 5 membres. Il y avait bien sûr mes parents, j'avais un jeune frère, et puis la grand-mère maternelle qui était là, qui était venue vivre avec sa fille pendant la guerre et qui était restée. Et cette cellule familiale, elle tournait en rond dans d'abord 2 pièces cuisine, puis 3 pièces cuisine, en banlieue parisienne. Alors, on n'était pas misérable, hein. C'était une petite bourgeoisie, mes parents travaillaient, gagnaient modestement mais correctement leur vie, on manquait de rien. Mais cette promiscuité a engendré, alors cette promiscuité et évidemment d'autres facteurs à l'arrière de tout ça, a engendré des rapports qui étaient terribles en fait, qui étaient que tout le monde s'engueulait, se mettait sur la figure, des fois ça tournait au drame. Je raconte dans le livre que j'ai vu ma mère enjamber la fenêtre pour se jeter par la fenêtre. Bon, voilà, c'était le quotidien, mais c'était pas caché, parce que je raconte aussi que de temps en temps les voisins venaient sonner à la porte en disant arrêtez ce tapage. Alors là où il y a secret, peut-être, c'est la façon dont moi je transportais cette histoire vers l'extérieur. Parce qu'effectivement, la honte, j'en avais. C'est pas très glorieux pour un enfant qui estime ses parents, quand même. On estime ses parents, moi, je trouve, surtout quand on est un petit enfant, quoi. On les juge pas. Et en fait, je voyais ses parents rappelés à l'ordre, par exemple, par les voisins qui venaient de leur dire, qui venaient dire à mon père, c'est honteux de frapper une femme, ou qui venaient dire à ma mère, arrêtez de crier, ça nous empêche de dormir. Enfin, des choses comme ça, c'est douloureux pour l'enfant parce qu'il les aime, ses parents. Il les condamne pas en même temps que les voisins. Alors, pourquoi, moi, au lieu de rentrer ça, finalement, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a sauvée, au lieu de rentrer ça au fond de moi-même et de le garder vraiment comme un pur secret, ces histoires-là, je les ai transportées et j'en ai fait des récits. Et auprès de mes camarades de classe, alors pas tout de suite, pas quand j'avais 7 ou 8 ans peut-être, mais tout début de l'adolescence, j'ai commencé à parler des rapports de mes parents entre eux et d'en faire des histoires plus ou moins marrantes à raconter autour de moi. Donc en fait, le récit que j'en faisais est venue enfouir finalement la douleur qui avait surgi dans le moment même de ces disputes, quoi, et qui restait attachée au souvenir de ces disputes. Voilà. Et je ne devrais pas raconter ça, d'ailleurs, je me rends compte, parce qu'en fait, on va suspecter tous mes récits d'être des moyens de recouvrir la vérité, ce qui ne sont quand même pas. Voilà, mais on va pouvoir détailler ça.
Non, mais en revanche, on découvre en vous disant, et en vous entendant, et puis aussi en lisant le livre en question, qu'il s'agissait d'une construction à l'époque, hein, vous avez construit un récit,
oui.
De la même manière que quand vous écrivez une enfance de rêve, vous construisez,
oui.
Ce livre de telle sorte que le secret qui n'en était pas un pour votre famille, mais qui était quand même quelque chose de douloureux,
oui.
Apparaît presque au détour parfois d'une page. C'est-à-dire qu'on met longtemps à découvrir que vos parents se battaient,
oui.
On met très longtemps, oui. À découvrir que votre frère, oui. N'était pas le fils,
oui.
De votre père.
Oui.
Voilà,
il faut du suspense.
Donc voilà, oui. Vous passez. Ça n'est pas de la fiction, mais c'est une construction. C'est,
oui.
Une construction de récit à laquelle j'imagine,
oui.
Que vous prêtez beaucoup d'attention.
Qui met quelque chose d'assez naturel. Alors, peut-être que ça vient aussi de la critique d'art, mais pas seulement, en fait. Bon, je me mets au travail sur un sujet quelconque, disons en histoire de l'art. Le réflexe, c'est bien sûr de se documenter, de lire autour du sujet en question. Par exemple, si c'est un artiste, on lit ce qui a déjà été publié sur lui. Et puis, on lit d'autres choses autour, quand même. S'il appartient à tout un courant, bah, on va se renseigner sur ce courant. Enfin, on va chercher, on élargit quand même son champ de recherche. Et moi, pour les récits autobiographiques, je me suis rendu compte assez vite que j'avais besoin de partir d'une certaine distance, assez loin en amont. Et concernant une enfance de rêve, le premier chapitre que j'ai écrit n'est pas resté le premier chapitre du livre. C'est le chapitre justement sur les parents, sur mon père qui rentre de la guerre, voilà, et qui se trouve face à une femme qui a beaucoup changé pendant cette période des 5 ans de la guerre, pendant laquelle il a été absent, et puis voilà, et puis différents événements ou faits de leur vie qui ont fait que ce couple s'est retrouvé comme ça au lendemain de la guerre, et qui, en se rendant compte qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, mais qui ont quand même décidé de vivre ensemble parce qu'il y avait les enfants qui sont arrivés très vite, parce qu'à l'époque ça se faisait peut-être pas aussi facilement qu'aujourd'hui de divorcer, etc. Bon, donc j'ai eu besoin, en fait, d'aller chercher dans l'histoire de mes parents, et même je dirais que c'est presque un truc d'obsessionnel, avant d'écrire vraiment sur la petite Catherine, j'avais besoin de me documenter, j'ai lu plein de livres sur ce qu'on a appelé la drôle de guerre, parce que c'est pendant la drôle de guerre que mon père a été fait prisonnier. Vous voyez, bon, toute une matière qui m'a pas forcément bien servi, mais j'avais besoin, moi, comme vous savez, c'est comme je sais pas, les sportifs qui ont besoin de chauffer leurs muscles, d'échauffer leurs muscles. Moi, j'ai besoin de m'échauffer l'esprit en allant chercher les éléments, en quelque sorte, de mon enquête, parce que c'est quand même toujours plus ou moins une enquête, très en amont. Bon. Donc, j'ai démarré comme ça l'écriture de ce livre, et puis je me suis dit, enfin, ça m'a pas un ordre trop chronologique. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, mais un ordre trop chronologique me plaisait pas trop. Et j'ai eu besoin de le casser en mettant avant ce chapitre qui raconte le père et la mère, bah celle de la naissance des enfants, leur toute petite enfance, bon, ce que je raconte dans le premier chapitre. Donc voilà.
C'est un récit au sens où c'est vraiment construit.
Oui, c'est très construit.
C'est pas uniquement dérouler des souvenirs.
Ah non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais. D'ailleurs, par exemple, la vie sexuelle, je voulais surtout pas que ce soit chronologique pour différentes raisons. D'abord parce que je pense que les mécanismes du désir, puisqu'il s'agissait de parler de sexualité, les mécanismes du désir n'ont aucune chronologie. Moi, j'ai toujours été frappée par ça. C'est que les gens dont ça occupe une grande partie de la vie, la sexualité, sont des gens qui vivent cette sexualité en dehors du temps, très souvent. Bon, ils vous croisent à un moment donné, dans une soirée, vous faites l'amour avec eux, après vous les voyez plus pendant peut-être des années, et puis un jour ils se rappellent de cette fille qui leur avait plu dans cette soirée, etc. Et ils l'appellent comme si de rien n'était, comme si on s'était séparés juste la veille. Bon, et ça m'est arrivé assez souvent, disons, enfin bon. Et ça, ça m'avait toujours frappée, parce que je me disais, mais les années ont passé, on a changé d'amis, on a changé, par exemple, de réseau d'amis, on a vieilli, on a rencontré d'autres gens entre-temps, etc. Mais non, les choses, ils considèrent que les rapports entre les uns et les autres restent un peu les mêmes. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'histoire au sens où les choses se déroulent, on ne revient pas en arrière, etc. Bon. Alors, ça me paraissait être une fidélité à ce genre de mécanisme que, a priori, pas faire ressentir de chronologie. Et puis, très très vite, ça s'est imposé à moi, peut-être là aussi, à cause de mon bagage de critique d'art, d'avoir un découpage qui soit un découpage très formel, en fait. Bon. Les questions du nombre, le détail, enfin, avant ça, l'espace replié, le détail, etc. C'est des préoccupations de critique d'art.
La forme vous préoccupe.
Forcément. Oui, oui, oui. Mmh. Moi, je pense pas qu'on puisse. Je pense. Enfin, voilà, je suis une formaliste en fait. Je suis une formaliste. Je pense que il faut inventer dans la forme. Pour pouvoir dire des choses nouvelles.
Pour être libre, d'une certaine manière.
Oui, pour être libre aussi. Oui, c'est vrai. Pour pas avoir sur le dos des modèles. C'était... J'y ai pas trop réfléchi. Heureusement, avant de me mettre au travail sur la vie sexuelle, mais il n'y avait pas de modèle. Alors, Denis Roche, qui a été mon très cher éditeur, c'est lui qui m'a passé commande, d'ailleurs, de ce livre... Il m'avait donné une indication, il m'avait dit, écoute, il faut que tu sois très factuel. Ok, ça, il n'avait pas à me pousser beaucoup. Et il m'avait dit, mais regarde un peu ce livre qui avait été, enfin ce livre, ces livres, ces 7 ou 8 volumes qui avaient été traduits chez Jean-Jacques Pauvert, My Secret Life, d'un anonyme du 19e, de la fin du 19e, qui racontait par le menu toute sa vie sexuelle. Bon, alors c'est impossible à lire en continu parce que c'est très... Alors là, moi j'ai été accusée d'avoir ennuyé mon lecteur parfois, mais alors lui c'est horrible parce qu'il n'y a pas des, il y a aucun effet littéraire pour le coup, il y a aucune construction justement. Bon.
Et c'est très long.
Et c'est très très long, c'est pour le coup là aussi on peut dire c'est très répétitif, etc. Et du coup je me suis assez vite rendu compte que ça pouvait pas non plus être un modèle. Bon, sinon que voilà, on est très descriptif, on dit les choses comment elles se sont déroulées, etc. Mais à part ça, non, ça pouvait pas être un modèle. Donc j'ai vraiment fonctionné sans... J'ai écrit ce livre sans modèle. Maintenant, est-ce que j'en avais pour les autres? Je crois pas non plus, en fait. Je crois pas non plus. Il y a des modèles de mémoire que j'aime beaucoup, mais ce sont pas des modèles.
Et pour revenir à la question du secret, quand vous écrivez un livre, que ce soit La vie sexuelle de Catherine M, ou que ce soit Une enfance de rêve, ou que ce soit Jour de souffrance, ou quel qu'il soit, enfin en tout cas ceux qui parlent de vous, ceux qui sont très autobiographiques, Catherine Millet, à quel moment vous faites un partage entre ce qui quand même doit rester secret? Est-ce qu'il y a un moment où tout d'un coup vous...
Alors c'est facile, le présent est secret. Le présent est secret. J'ai jamais travaillé à chaud, par exemple. Pourquoi? Parce que à chaud, il me semble qu'on est encore trop pris dans les raies des événements en cours et que même par rapport à soi-même, est-ce qu'on voit très clair en soi-même lorsque les choses se déroulent? Est-ce que je serais capable de faire un récit que je voudrais le plus détaché, le plus objectif possible de ce qu'était ma vie il y a 6 mois? Non, parce que les choses sont encore très emmêlées comme ça. J'ai peut-être eu des conflits ou j'ai peut-être des conflits qui sont pas dénoués. Bon, et ça, j'y vois pas encore suffisamment clair. Donc, moi, je me sens pas capable d'entreprendre le récit d'événements de ma vie qui remonteraient à l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans même. Vous voyez, c'est encore trop... Et puis parce que, je vais être obligée de le dire, parce que je pense que je suis assez pudique et que j'ai pas envie de... Je me rends compte du paradoxe que ça peut être de dire une chose comme ça, mais j'ai pas envie de raconter ma vie comme ça tout de suite. Voilà, bon. Il faut que moi-même soit devenu quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, par rapport à qui j'ai pris de la distance. Le fait d'écrire me fait encore prendre plus de distance, forcément. Donc bien sûr que j'ai des secrets. Alors en revanche, une fois que j'ai décidé de regarder cette Catherine d'il y a, je sais pas, disons 10 ans, 15 ans, 20 ans, et d'écrire sur elle, alors là, ce que je souhaite, c'est vraiment d'être capable de tout dire sur elle. Et concernant la vie sexuelle, c'était pas très difficile, parce que franchement, étaler sa vie sexuelle, ça me dérange pas. Alors là, même pour ce qui serait du présent, je crois que je serais pas très gênée. Mais la vie vraiment des sentiments, la vie de la conscience, tout ça, ça c'est un petit peu plus difficile à mettre au jour, et il me faut de la distance. Mais une fois que j'ai décidé que la distance était suffisante, il faut aller jusqu'au bout. Et oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que concernant jour de souffrance, il y a eu des moments qui étaient assez difficiles pour ça, parce que en fait, il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour dire ce qui était resté des secrets, pour reprendre votre mot. Voilà.
Et Catherine Millet, cette Catherine d'il y a 10 ans et d'il y a 15 ans, qui est un autre vous, qui est un personnage en fait, qui est devenu un personnage, hein. Comment la regardez-vous ? Vous la regardez avec détachement, avec intérêt, avec tendresse, avec amusement, avec quoi ?
Avec une certaine sympathie, mais ni plus ni moins, je crois. Je veux dire, le fait dans le moment de l'écriture, il faut qu'il y ait quand même un peu de sympathie pour le personnage, parce que sinon, je sais pas, ça m'obligerait peut-être. Il faut une sympathie détachée, voilà. Il faut si le personnage que j'ai été me déplaisait complètement, je pense que je serais pas capable d'écrire sur ce personnage. En même temps, il faut pas non plus que je sois trop, c'est bizarre de dire les choses comme ça, mais trop en empathie avec elle, quoi. Il faut que je me sois complètement détachée. Comment je la regarde? Souvent avec un peu d'humour, je m'en sors avec un peu d'humour. C'est une façon de s'en sortir quand même, ouais. D'ailleurs, ça m'amuse des fois de parler de moi à la troisième personne, parce que c'est... Je vais vous dire une chose, je trouve ce que je trouve très très agréable dans le fait de raconter sa vie comme ça à travers les livres, c'est que quand même ça vous en détache de cette vie, ça vous détache quand même aussi de votre personne, vous laissez pas mal sur les bas-côtés du narcissisme qui vous encombrait, voyez. Bon, je dis pas que je suis plus du tout narcissique, enfin quand même, j'ai laissé beaucoup tomber de choses de cet ordre. Et qui n'ont pas simplement trait d'ailleurs à la personne physique, parce que ça, bien sûr, avec l'âge, on est obligé aussi de renoncer à un certain nombre de rapports narcissiques à sa propre personne. Mais même au-delà de la personne physique, je pense que plus j'écris sur moi et plus finalement, spontanément, je suis détachée de ma propre personne. J'ai vraiment l'impression que je m'allège. Voilà, c'est ça. Je me dis, tout ce qui est maintenant dans les livres, ça m'appartient plus, c'est plus moi, je m'en fous. Voilà, c'est très agréable. En fait, c'est très très agréable.
Ah oui, Catherine.
Ah oui, c'est très agréable.
Enfin, on pourrait se dire aussi que le fait de se débarrasser de soi, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, ça pourrait aussi faire peur, hein, en se disant, mais au fond, je suis en train de jeter par-dessus bord des choses qui me font moi, qui me constitue.
Bon, je peux me consoler en me disant qu'au moins il y en a une partie qui est consignée dans des livres comme ça. Bon, alors ça reste, mais c'est plutôt le sentiment que moi j'en ai. Vous voyez que ça ne m'appartient plus. Ça, c'est une expérience que j'ai faite tout de suite avec la vie sexuelle. Ça m'a fait même un drôle d'effet quand j'en avais découvert la puissance, c'est que j'avais été très très scrupuleuse, comme je le suis toujours, dans l'écriture de ce livre. Et par exemple, pour certains faits, j'étais allée vérifier les lieux, j'avais interrogé des témoins, si on peut dire les choses comme ça, quand la chose était possible, etc. Bon. Et évidemment, le fait de se retrouver sur les lieux, de revoir les personnes, ravive la mémoire. Et du coup, donc dans certains cas, j'avais l'impression que ces souvenirs était très, encore très frais dans ma mémoire, que ma mémoire était assez fidèle. Bon, j'ai écrit le livre, et franchement, quand j'ai été amenée à relire ce livre, ou lire des passages, par exemple, etc., je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que j'en avais écrit avait complètement enfoui, recouvert la mémoire que j'en avais. Et qu'en fait, maintenant, si je vous parle de faits qui sont rapportés dans la vie sexuelle, et que forcément des images s'y attachent, c'est des images qui sont produites par ce que j'ai écrit et qui ne sont plus les premières images, sans doute, que j'en avais gardées. Voyez. Donc, alors là, pour le coup, moi, mon sentiment le jour où j'ai découvert ça, c'est que je me dis, t'as perdu ta mémoire, quoi. T'as perdu ta mémoire. Bon. Et ça m'a fait ensuite à peu près la même impression avec les livres suivants. Donc c'est très curieux, quoi. En fait, un bon moyen de se débarrasser du poids de sa mémoire, c'est d'écrire les choses et de l'écrire, peut-être de les écrire d'une manière élaborée. Il s'agit peut-être pas simplement de tenir son journal, vous voyez, au jour le jour, mais je pense que, en effet, l'effort de construction que vous demande un livre, vraiment, le fait que vous déplacez certains détails, par exemple, vous déplacez les lieux, ou vous voulez recréer, évidemment, etc. Bon, tout ça remet en place des images qui sont sûrement plus les images d'origine, mais qui les font complètement disparaître, quoi.
Donc, pour terminer, en fait, vous devenez une personne qui est remplie non pas d'une réalité de souvenirs, mais de récits. Voilà. On pourra en reparler demain soir, si vous voulez. Puisque
d'accord.
Là, il est l'heure de s'arrêter. Merci, Catherine Millet.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Catherine Millet. À voix nue. Réalisation Franck Lilin. Prise de son Clémence Bonfils. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.